Phil PM. La voix est libre.
On est très conscient, là, puis je suis assez vieux pour m'en rappeler d'Oka. On sait qu'il y a des Mohawks qui sont armés, donc on est très prudent. Mais moi, j'ai confiance que la Sûreté du Québec va réussir à démanteler les barricades partout au Québec.
Voici Luc Lavoie.
Luc Lavoie, La Voix est libre, bonjour.
Salut Bernard.
On est en Facebook Live, on salue les gens de la Mauricie et du Centre du Québec qui nous écoutent à partir de maintenant sur le 106.9. Alors c'est François Legault un peu plus tôt aujourd'hui. On a appris depuis évidemment que le Canadien Pacifique a obtenu une injonction qui n'a toujours pas été signifiée au Mohawk de Kanawagé. On vient d'apprendre qu'une autre demande d'injonction va être formulée à 14 heures, donc elle est en train ou sur le point d'être formulée par la Société des chemins de fer de la Gaspésie pour faire lever le blocus des Autochtones de l'Estigouche.
Oui.
Hein, ça, c'est en Gaspésie. Alors, il y a ça aussi qui est en action. Là, Luc, si tu me permets, d'abord, un court commentaire avant d'aller à notre expert. Un court commentaire sur l'état de la crise.
Écoute, je trouve que le ton a un peu baissé. J'ai trouvé que M. Legault faisait preuve de beaucoup de retenue dans ses propos. Mais, par ailleurs, je vois pas le bout de l'affaire. Je veux dire, Belleville, hier, on s'est dit, bon, finalement, ils ont démantelé une barricade. Il n'y a pas eu de blessés. Il n'y a pas eu de très grave violence. Mm-hmm. Et puis là, les trains de marchandises vont recommencer à circuler. Puis là, ben, est arrivé cet incident, un pneu envoyé sur les rails.
Un pneu en feu, oui.
Un pneu en feu et...
Et depuis ce temps-là, il n'y a plus d'autres trains qui sont passés depuis ce temps-là.
Alors, ça n'a pas réglé le problème, loin de là. Le cas de Kanawagé est extrêmement complexe parce que c'est un territoire, je ne sais pas si on a... Est-ce qu'on dit autonome? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit dire.
C'est une réserve autochtone, c'est une réserve Mohawk.
Ouais, ils sont chez eux, là,
ouais,
carrément.
Oui, c'est vraiment... Ouais,
ils ont
ouais,
leur propre
ça.
Police, que
exact.
Sont les Peacekeepers.
Exact.
Alors... T'sais, on est devant une drôle de situation. La Sûreté du Québec va dire, j'ai pas d'affaires là, moi. Hein? Puis après ça, l'armée...
Les Peacekeepers disent déjà, ils l'ont dit hier dans l'Assemblée citoyenne à Kanawagé, les Peacekeepers ont dit aux 500 personnes qui étaient réunies, nous n'allons pas faire respecter une injonction si jamais elle est émise. Nous, Peacekeepers, oui. N'allons pas faire respecter une injonction. Et par ailleurs, ils ont aussi dit... Nous autres, c'est nous qui s'occupons de ce territoire-là. On ne permettra pas à la Sûreté du Québec de rentrer chez nous.
J'ai été intrigué par les propos de Joe Norton hier qui disait justement aux Canadiens Pacifiques, s'il vous plaît, n'allez pas chercher une injonction, les choses vont se régler autrement. Alors, j'essayais de comprendre, là, je comprends mieux, c'est les Peacekeepers qui ont dit, nous, on n'appliquera pas une injonction émise par une cour. Alors, ça fait que la situation semble pas vraiment se régler. Ça fait que la situation dure et perdure. Et là, ben, je pense que Patrick Lagacé a employé une belle expression tantôt. Tu sais, c'est la déshumanisation de part et d'autre. Pour les Autochtones, les Blancs sont rendus tous des méchants. Pour les Blancs, c'est encore pire ce qu'on lit sur les réseaux sociaux.
On n'est pas rendu là encore, Luc.
Non, mais
t'as
ça
minorité.
Monte.
T'as une minorité de chaque côté, effectivement.
Mais
ça monte. Il faut que ça reste une minorité.
Il faut que ça reste là.
Ouais,
parce que jusqu'à
ça.
Maintenant, je dois l'admettre, plutôt calme. Comparé à ce qu'on a vécu il y a 30 ans.
Ouais,
c'est toujours
ouais.
notre point de référence, forcément.
Ouais, ouais.
C'est plutôt calme. Mais combien de temps ça va durer? Parce que là, tu vois, les gens de Candiac, tout ça, ils n'ont toujours pas leur train de banlieue. Ils ont toujours de la navette en autobus. Ouais. Ça commence à... Ça fait c'est 3 semaines, là?
Ben, presque. Là.
Presque 3 semaines. Alors, il y a vraiment... j'ai entendu M. Legault... Je pense qu'il avait été bien informé. C'est pas facile rentrer dans une réserve indienne où ils ont leur propre corps policier.
Puis où il y a des armes, dit-il. Puis honnêtement...
Bon, c'est dur à contester.
J'ai aucune raison de penser qu'il ne dit pas la vérité.
Ben, la société des Warriors, qui existe depuis assez longtemps, forcément, sont des gens armés.
Voilà.
Ils se veulent une espèce de milice protectrice de leur peuple. Alors... qu'il y ait des armes, ça ne m'étonnerait pas du tout.
En tout cas, il faut prendre pour acquis qu'il y en a. Ouais. Pas compliqué dans une opération.
Ben, une opération policière, ils s'en iront pas là en disant peut-être qu'ils n'en ont pas.
Tu prévois le pire, hein? Ouais. Tu n'as pas le choix, tu prévois le pire. Soit dit en passant, je relis là, les propos qui ont été tenus par Joe Norton sur les ondes de la radio de Kanawagé, la radio K103,7. Et il cite le chef de police qui dit « La seule force de police qui va... pouvoir faire respecter une injonction ici, c'est nous, les Peacekeepers. » Mais Norton dit aussi, il n'est pas question que la Sûreté du Québec vienne faire respecter une injonction. Il dit « The only police force that can enforce an injunction in Ganawagi is the peacekeepers and they will not do that. » Ça, c'est Joe Norton qui parle.
Tout à fait.
Fait que et Norton et le chef de police, les deux disent les peacekeepers vont jamais faire respecter l'injonction. Parlant d'injonction, Luc, là, on va aller rejoindre Marcel Savard, ancien numéro 2 de la Sûreté du Québec, qui a lu... Bonjour, Marcel.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Tu as lu l'injonction qui a été obtenue par le Canadien Pacifique et tu as lu également l'injonction qui avait été obtenue pour faire lever le blocus de Saint-Lambert et tu as comparé les deux. Et celle que le Canadien Pacifique a obtenue est beaucoup plus large.
Tout à fait, mais sans avoir la prétention d'être un juriste, cependant, j'ai quand même eu l'occasion de lire et de signifier plusieurs injonctions. Quand on regarde les deux, celle qui vient d'être livrée ou signifiée ce matin, elle est beaucoup plus large parce qu'on est vraiment au niveau de toute personne qui va inciter, encourager, nuire. Et c'est très, très large. Et même dans la signification, on est aussi très large parce qu'on permet même la notification de l'injonction par des avis publics avec des médias quelconques. Donc, elle est plus large. Je dirais plus facile aussi, évidemment, à signifier, mais elle engage aussi beaucoup de personnes
mais Marcel,
dans tout le dossier.
Marcel, oui, dans ce que tu décrivais tout à l'heure, là, à savoir que inciter, ou je ne me rappelle plus exactement...
Inciter, encourager, nuire.
Ben, ça veut dire quoi? Ça veut-tu dire que la liberté d'expression est à quelque part en jeu dans ça? Est-ce que ça veut dire inciter?
Non, mais ça veut-tu dire que Joe Norton, quand Joe Norton déclare hier en assemblée publique, il n'est pas question que les peacekeepers fassent respecter une injonction. Ça veut-tu dire qu'il pourrait, selon la définition de ce que tu nous lis là, est-ce qu'il pourrait être lui-même visé par l'injonction?
Pas à ce niveau-là, Bernard. Mais quand on pourrait mentionner, quel que soit le leader ou un porte-parole, qui pourrait dire on va continuer, puis j'incite les gens sur le blocage ou j'incite la population à venir. Ça fait partie de l'injonction, là, parce que on dit inciter, c'est inciter à commettre des actes qui sont à la limite défendus par l'injonction. Donc déjà là, c'est plus large. La signification, la signification de l'injonction elle est plus facile, tu considères. Elle peut être livrée en personne ou par d'autres moyens. Donc, et aussi, toute personne qui a connaissance de l'existence de l'injonction, elle peut être visée par l'injonction. Mais comme je dis, je ne suis pas juriste. Je compare avec les expériences vécues dans le passé. Mais j'aimerais revenir, si tu permets, Bernard, sur un élément que je trouve intéressant. Vous y avez touché un petit peu. On se rappelle, il y a quelques instants, le porte-parole a parlé de beaucoup de tensions sur les lieux.
Mm-hmm. Oui.
Pour moi, il y a une immense différence entre la tension et la pression. Le leader a beaucoup de pression sur les lieux, des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont sur le blocus, qui mettent de la pression au porte-parole, qui mettent de la pression au conseil de bande, qui mettent de la pression au service de police. Le politique met beaucoup de pression sur la force, la Sûreté du Québec. Ça, là, c'est pas grave, la pression. Il faut que les gens soient capables de la prendre. Où moi, je suis inquiet, c'est quand ils commencent à avoir de la tension. Là, ça m'inquiète.
Mais je voudrais que tu expliques davantage la nuance, là.
Oui.
Ben, la nuance, c'est que, exemple, quand on s'est retrouvé à Belleville avec les policiers sur les lieux, avec les manifestants qui faisaient le blocus, là, il y avait une tension. Il y a une grosse différence parce que la tension mène à des actes de violence et à une confrontation systématique. Si on avait la population qui commençait à dire « c'est assez », ils se mobilisaient, ils se déplaçaient pour se ramasser quelque part autour du blocus, là, on va se ramasser avec de la tension entre les parties. Et ça mène systématiquement à des confrontations. La pression, là, que tout le monde ait de la pression, que la police ait de la pression du politique, que le peuple autochtone, entre eux autres, le conseil de bande, sente de la pression de la communauté, des gens sur le blocus. Ça, là, t'es là, quand t'es été nommé, puis t'es en charge, puis t'es responsable de... Ben, je m'excuse, mais ça fait partie de la joute de prendre la pression.
Marcel, parce que tu parles de pression, je veux revenir sur un commentaire que tu as fait tout à l'heure dans la première heure. Je veux que les auditeurs qui ne t'ont pas entendu à ce moment-là l'entendent, puis je veux que Luc t'entende aussi. Tu nous as dit tout à l'heure sur les ondes, quand est arrivée la fermeture du pont Mercier en 1990, il y avait beaucoup de tensions. Et tu nous as dit à un moment donné, on s'est fait demander, nous autres, à la Sûreté, d'aller intervenir sur le pont Mercier et on a dit non. Donc, la police a dit non aux politiques. Réitère les raisons pour lesquelles vous aviez dit non à ce moment-là.
Ben d'abord, c'était pas en 90, là, je veux juste préciser, cette intervention-là est survenue avant 90, mais quand même, on est quand même dans le même dossier. Là. Et à ce moment-là, suite aux renseignements de sécurité que nous avions obtenus des photos aériennes, on avait formellement identifié la présence d'armes lourdes. Et je vais spécifier en disant que c'était à la limite une .50 sur trépied.
Oui.
Donc, pour les gens qui ne connaissent pas ça, une .50, ce sont des munitions qui vont servir à la limite pour percer l'armure d'un véhicule blindé. Donc, c'est extrêmement performant. Et il y avait des gens qui avaient l'aptitude, des aptitudes et la capacité d'utiliser ça puis de manipuler ça. Et elle était opérationnelle. Donc, à ce moment-là, la commande était « Libérons le pont Mercier ». Et quand on fait le tour de l'ensemble de l'œuvre puis de l'ensemble de la situation, ben on est arrivé à la conclusion que c'était pas une mission pour la Sûreté du Québec. Là. On n'était pas capable de faire ça.
Mais ce que je retiens de cet épisode-là, c'est que si le politique, à un moment donné, met de la pression sur la direction de la Sûreté du Québec pour intervenir dans une situation où la direction de la Sûreté dit c'est trop dangereux, on n'est pas équipé, où les circonstances sont telles que ça risque de déraper. Vous avez, la Sûreté du Québec a toujours l'autorité de dire non aux politiques.
Tout à fait. Et je veux, malgré la déception que plusieurs personnes vont avoir en disant ça, c'est sûr que la Sûreté du Québec a l'autorité pour décider si l'opération va se faire, le quand, le comment, à quelle heure, avec quelle méthode, et si elle va se faire de toute façon compte tenu des circonstances.
Mais Marcel, j'imagine qu'il y a des critères. Là. Est-ce qu'on est en mesure physiquement de le faire? Est-ce qu'il y a plus d'armement? Est-ce que... Il doit avoir comme un checklist, là.
C'est pas bâti sur un coin de table, sur un apron, lors d'un lunch. Là. C'est bâti autour d'une réflexion, de critères bien précis, la capacité de part et d'autre, la réaction anticipée, les présences des gens, est-ce qu'il y a des gens entraînés, formés? Est-ce qu'on est en train, de l'autre côté, de regarder que, s'il y a des opérations militaires ou des tactiques militaires, genre ils sont en train de se creuser des tranchées, comme on a vu à Oka, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des tranchées qui sont en train de se creuser? Et tout ça, dans une perspective globale, on en arrive à la conclusion qu'on ne peut pas faire ça. Mais je vous dirais que les décideurs qui ont à prendre la décision de stander cette pression, parce qu'on est toujours dans la pression, ils se font généralement ce que j'appelle une cicatrice de gestion.
Une cicatrice de gestion, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Oui, ça, c'est une marque que tu te fais comme décideur de stander une pression quelconque qui arrive de certaines autorités puis de dire « on fera pas ça ». Et là, tu te marques au fer rouge comme décideur de dire « ben t'es pas un yes-man, t'es quelqu'un qui est censé » puis de dire « non ». Ça,
c'est
ça. T'appelles ça des cicatrices de gestion.
Ben, comme on dit c'est en ça. Anglais, là, le red line, là, la ligne que tu ne traverseras pas.
C'est ça. C'est exactement ça. Et ça laisse des marques. Mais quand même, les décideurs sont en place pour prendre ces décisions-là et conseiller adéquatement. Et ça fait partie. Il ne faut pas voir ça négatif, là. Il ne faut pas voir ça comme étant une gouvernance dans la gouvernance du Québec. Il faut voir ça comme étant le conseiller en opération policière. Mm-hmm. Ce sont les forces policières elles-mêmes et les dirigeants et les tacticiens stratèges qui sont à l'intérieur. Et les autres sont là pour conseiller le gouvernement de dire, ben voyez-vous, là, si on y va, là, voici les impacts, voici la capacité, voici ce qui va arriver, voici ce qui peut arriver.
Et tout à l'heure, tu nous disais, dans la réflexion que mène la Sûreté du Québec présentement, parce qu'elle n'a pas le choix que de faire cette réflexion-là présentement, compte tenu notamment des demandes d'injonction, compte tenu de ce qui est arrivé à Belleville, tu me disais, dans la réflexion, la SQ n'a pas le choix que de regarder l'appui logistique qu'elle pourrait recevoir de l'armée aux besoins. Tu dis ça, ils n'ont pas le choix que de l'envisager, là.
Exactement, et ça fait partie, une des phases du plan d'intervention, c'est quand on est rendu vraiment à passer à cette étape, parce que c'est un plan avec plusieurs phases, il y a un moment où de passer à l'étape suivante, ça veut dire systématiquement de demander l'appui logistique de l'armée.
Mais si, oui, mais Marcel, ma façon de comprendre les choses, c'est que la province peut demander à Ottawa de faire intervenir l'armée, auquel cas le gouvernement canadien dit oui quand la demande vient d'une province. Maintenant, si tu demandes pour qu'une chose comme tu décris se produise, c'est-à-dire un appui logistique ou autre, il va falloir que quelqu'un donne l'ordre aux forces armées canadiennes de se mettre en action. Et Trudeau a dit qu'il
ne
le ferait pas.
Et voilà, Trudeau a dit qu'il ne le ferait pas, Marcel.
Si tu permets, Luc, il y a deux aspects là, dans l'appui militaire que tu parles. Le premier aspect, c'est vraiment de demander un appui opérationnel à l'armée. Ça, c'est une chose. Ça monte jusqu'au bureau du conseil privé. Ça monte jusqu'au ministre de la Défense nationale.
Donc, c'est complexe, là.
C'est très complexe. Le deuxième aspect, c'est qu'il est possible que la force policière ait besoin juste d'appui logistique, des équipements.
Des hélicoptères blindés, ou des trucs comme ça.
Hélicoptères, blindés, des trucs comme ça. Rappelons-nous qu'on a eu, à un certain moment donné, bien avant que l'armée se présente à Oka, on a équipé tous les policiers avec des C7, qui est une carabine avec...
C'est la carabine standard de l'armée, ça.
C'est ça. Donc, on a équipé tous les policiers avec des C7, mais les C7, on n'en avait pas. Donc, on avait demandé un appui logistique à la Défense nationale.
Et donc, c'est une demande moins... comment dire, il y a moins de processus à suivre. Là,
Oui, parce que ça se fait au niveau provincial seulement. C'est le provincial qui, dans son évaluation, décide qu'elle a besoin de certains équipements. Et le provincial et la Sûreté du Québec, pour les forces policières au Québec, le point de chute à ce type de demande, c'est la Sûreté du Québec qui, elle, va passer à un niveau supérieur pour aller demander la logistique nécessaire. Alors que l'autre, c'est l'intervention opérationnelle de l'armée. Ça, c'est quelque chose. Ça demande vraiment une décision politique.
C'est ce qui est arrivé il y a 30 ans.
Ça, c'est boots on the ground, comme on dit, là.
Oui, c'est ça. Tout à fait. Il y a une grande différence entre les deux. Et de toute façon, dans la planification, dans le plan d'opération, qui est ouvert actuellement, là, qui est sur les tables au Grand Quartier Général, puis les gens sont en train de se l'approprier. C'est des cartables et des cartables de documentation. Il y a une phase là-dedans qui prévoit l'appui logistique et il y a une phase qui prévoit l'assistance opérationnelle de l'armée. C'est tout est prévu. Mais entre le regarder, se l'approprier, être capable de prévoir le déploiement, puis ça prend combien de temps, ça, c'est une chose. Oui. Et de dire, OK, c'est un go.
C'est
pas la même réalité.
Non, on en a le vertige d'ailleurs.
On parle, là, je nous écoute parler, puis on dirait la guerre.
Oui, mais c'est ça.
C'est un peu pour ça, si tu permets, Bernard, c'est un peu pour ça quand j'ai fait une intervention précédemment avec Bernard. Moi, là, pour moi, là, tout ça, là, je suis pas dramatisé par tout ça. Moi. Oui, il y a une problématique, là. Oui, il y a actuellement des blocages qui se font en grandeur du Canada. On est dans un dossier de conviction. Et actuellement, on a fait des interventions à Belleville. Bon, on a vu ce que ça a créé. Mais pour moi, il y a un momentum dans chaque situation qui se crée. Et pour moi, je suis convaincu qu'on est en train de créer un momentum qui va amener une résolution de tout ça. Puis ça va être une résolution pacifique.
Moi, je suis d'accord parce que j'ai une intuition qu'on dirait que le ton baisse. On dirait.
Mais j'en suis convaincu. Mais évidemment, quand on regarde chaque petit événement de façon à faire juste un petit portrait, ben, si on regarde Kanawaki, ils ont rajouté des blocs de ciment pour éviter. Je comprends pourquoi ils l'ont fait, pour éviter qu'il y ait le type d'intervention qui s'est passé à Belleville, qu'il y ait des véhicules qui s'approchent trop proches, qu'ils ont rajouté des blocs de ciment. Mais si tu regardes ça, de façon petite, là, tu te dis, mon Dieu, ça l'empire. Il faut que tu le regardes d'une façon plus grande. Moi, là, je veux dire, il y a des contextes qui se mettent en place. L'injonction, malgré la pression que ça met aux représentants du milieu des Premières Nations, malgré la prochaine injonction qui aura lieu pour l'Estigouche, ça met de la pression. Mais pour moi, on s'en va vers un momentum qui va amener une résolution parce que ça va forcer les gens à s'asseoir, à se parler.
Ben, bonne note d'espoir.
On va, espérer, Marcel, que ta lecture est la bonne. Chose certaine, quand on contemple le pire, puis c'est un peu ça qu'on vient faire dans les dernières minutes, on se dit qu'on veut vraiment pas aller là. Ça aussi, ça fait partie, je dirais, de l'espèce de lucidité là, qu'il faut avoir dans l'évaluation de cette situation-là pour qu'on garde justement la tête froide. Parce que quand on évalue les conséquences d'une position, mettons, jusqu'au boutiste, là, on voit bien que ça nous mène dans le mur. Marcel Savard, donc, ancien directeur général adjoint de la Sûreté, donc ancien numéro 2 de la Sûreté du Québec. Merci beaucoup, Marcel.
Merci, Marcel.
Un plaisir.
Au revoir.
Après la pause, Luc, une autre crise, pas aussi grave, mais quand même très...
Sur le long terme, elle peut être très grave.
Très intense. Ça se passe en Alberta. Le mouvement séparatiste qui veut pas prendre de l'ampleur, prendre de la force à cause notamment d'une décision qui vient d'être rendue. On en parle après la pause.